chronique d'Occulte Racine sur Radio Ranciel avec Lynn. Suite, chapitre 5, la reine de la nuit. D'habitude, c'est toi la dernière, se moqua une voix d'homme derrière la fillette. Vous êtes tombées du lit toutes les deux ? La petite fille se retourna. Du sous-sol arrivait une femme joviale et rondouillarde, au visage encadré par deux tresses brunes. À son bras, un fringant cinquantenaire en combinaison blanche. Mais la voix d'homme, c'était celle de la petite femme.
Hermeline, je te présente Miss Orban. Miss Orban, voici Hermeline et son protégé, Serge.
Jean-Louis.
Jean-Louis, pardon, vous voulez une crêpe ?
Vous en faites pas, moi non plus il y a deux jours, je ne me souvenais plus de mon prénom. Mais regardez-moi, de l'histoire ancienne tout ça. Il a retrouvé toute sa tête, le Jean-Louis.
Et la petite, elle a quoi ?
Elle a quelques spas.
Une maladie des cordes vocales ?
Non, je crois que c'est juste son caractère. Pas vrai, gamine ?
Hélène esquissa un sourire narquois dans sa tête.
Elle n'était pas là hier ? S'intéressa le vieil homme.
Nopé, on est rentré ce matin. Je me suis fait accueillir, je vous raconte pas.
Messieurs, dames, bonjour. Jinko venait d'arriver. Avec Hermeline et Pepper, elle formait le trio d'inséparables qui se retrouvaient chaque matin pour le petit déjeuner et chaque soir pour le dîner. En fait, elles étaient les trois dernières arrivées parmi les sages-fées. Hermeline et Jinko avaient pratiquement pris leur fonction le même jour, à deux semaines près. Jinko avait aussi la particularité d'être la plus grande des sages-fées. Un grand fil de fer d'1m92 avec des jambes interminables et de très longs bras tout maigres. Et au sommet, un visage émacié très aplati avec des lèvres étroites, un nez effacé et de petits yeux. Elle bougeait en se dégingandant dans sa blouse blanche et verte et en penchant sur le côté, ce qui lui valait tout un tas de surnoms plus ou moins sympathiques.
« Comment va le cocotier ?» mâchouilla Pepper. « T'as pas de protégé ce matin ?»
Elle avait envie de prendre une douche. Elle nous rejoint. « Personne n'a ramené de chouquette ?»«
J'allais en chercher, » proposa Jean-Louis. « Je ne quitterai pas la serre sans en manger une dernière fois. »«
Ah, ça y est, vous partez ?»«
Oui, il a reçu son coffre, » intervint Hermeline. « Je le raccompagne tout à l'heure. »«
Pouah, c'est quoi cette odeur ?»
demanda soudain Jinko en fouillant l'air du museau. Pepper tout sauta.
Quoi, vous trouvez que ça sent bizarre ?
La mâchouillante sage-fée roula des yeux pour désigner la fillette à côté d'elle.
C'est-à-dire que le donut a marché sur elle, quoi ?
5 minutes, confia Pepper en se penchant sur la table pour n'être en tenue que de ses consoeurs.
Sans rire ?
Sans rire ? S'étonna Hermeline.
L'Araclé a tout juste eu le temps de réagir qu'elle était déjà debout.
« Tu devrais peut-être en parler au Mumu, » suggéra Jinko.
« Non, ça vient pas du donut, » assura Pepper. « C'est surtout que je dois me farcir Terminator avec 20 ans de moins et des cheveux longs. Quand je vous disais qu'elle m'aimait pas, la vieille. »
Certains protégés semblaient très mal en point, d'autres se portaient beaucoup mieux. Mais tous avaient ce sourire nié sur leur visage d'adulte. Ils mangeaient et ils souriaient. C'était pathétique. Quand ils se promenaient, ils arboraient un sourire large et bien franc. Quand ils dormaient dans les hamacs, quand ils buvaient aux fontaines, quand ils faisaient du toboggan aquatique, ils gardaient accroché aux lèvres ce sourire de brochure publicitaire. Il n'y avait qu'Hélène, du haut de ses 11 ans, pour rester sérieuse. C'était le monde à l'envers. Et toujours pas de café à l'horizon. Il devait être 14 heures, quand elle revint au Barnapé prendre une brochette de légumes. Elle n'avait toujours pas goûté aux crêpes, ni aux gâteaux, ni aux salades de fruits. Tout ce qui était à base de pâte et de sucre, elle préférait éviter. Elle n'avait pas envie de revivre l'épisode du donut somnifère. Mais elle avait décrété que les brochettes de légumes, c'était sans danger, ce qui lui réussissait plutôt bien depuis le début de la matinée. Elle avait tourné en rond pendant des heures et ne se sentait pas du tout fatiguée. Du reste, ses légumes étaient incroyablement bons. Les jutes déversaient dans sa bouche des océans de fraîcheur.
Les croquants explosaient en pétillant et les fondants s'enfonçaient dans sa gorge en caressant tendrement ses papilles. C'était difficile à admettre, mais elle en aurait presque souri.
« Tu veux savoir ce qu'il y a là-haut ?» lui demanda Corinne.
La sage-fée était assise devant la table mille-pieds à deux tabourets de la fillette. Hélène ne répondit pas. Elle voulait surtout savoir s'il y avait du café là-haut. Elle avait vu qu'il y avait une pièce vitrée au sommet du grand tronc, une vaste pièce creusée à la pointe de la torsade au départ de toutes les spirales. Elle avait cru y voir quelqu'un bouger, la silhouette d'un homme d'après ses yeux de fillette. Mais c'était tellement haut, elle ne pouvait pas en être sûre. « C'est notre fou dans la tour, » s'amusa Corinne. « Il ne descend jamais. Je ne sais même pas comment il s'appelle. On n'en parle pas par ici. On sait qu'il est là-haut et nous, on est en bas. Il y en a qui pensent que c'est les créateurs de la serre. D'autres disent que c'est juste concierge. En tout cas, on a consigne de ne pas le déranger. En échange, il nous laisse profiter de la serre autant qu'on veut. Mais je suis bête. Pepper a dû t'expliquer tout ça. Où est-ce qu'elle est, au fait ?
Dommage qu'on ne puisse pas monter. Un homme fou tout seul dans sa tour, il y avait des chances qu'il sente copieusement mauvais. Possible aussi qu'il ait du mal à trouver le sommeil. Peut-être même jouait-il à la belote.
La nuit n'était pas encore tombée, mais rien que d'y penser, la fillette savait déjà que le cornichon allait lui manquer. En résumé, il n'y avait pas de café. Pas de cafetière, aucune horloge et personne n'avait de montre. Elle n'avait trouvé ni jeu de cartes, ni radio ou lecteur de musique. Tout le monde ne faisait que manger ou jouer à des jeux bizarres. Certains se promenaient, d'autres nageaient ou se reposaient, mais il n'y avait pas de salle de classe ou de devoir à faire. Aucun élève à taper, ni médecin, ni appareil clignotant ou pharmacie pleine de médicaments. Plus les heures passaient et moins la petite Hélène comprenait ce qu'elle faisait dans cette serre.
« Ah, te voilà! J'arrête pas de te paumer! Tu le fais exprès ou c'est moi ?»
Pepper avait toujours ce déhanché sexy un peu bizarre, même quand elle était en colère.
« On va jouer au chat et à la chauve-souris, » reprit-elle. « Tu viens avec nous ? Tu vois l'arbre de cristal là-bas. Après les deux fontaines, c'est là que ça se passe. Plus on est, mieux c'est. »
Ce qu'elle comprenait encore moins, c'est que l'après-midi touchait à sa fin. Le ciel s'assombrissait au-dessus du dôme transparent et malgré sa 30e brochette de légumes, la petite fille commençait à ressentir de la fatigue. Une vraie fatigue, de celles qui abrutissent et ankylosent. Quelque chose lui échappait. N'était-il pas censé la guérir au lieu de jouer toute la journée ? Dehors, l'ombre de la nuit froide s'était abattue sur la serre. Mais dedans, la voûte du dôme s'était mise à scintiller de millions d'étoiles vertes, pour la plupart concentrées sous les lignes spiralées des toboggans aquatiques et des potagers suspendus. L'air était doux, presque chaud. Dans les jardins des arbres à lampions, c'était allumé, leurs fruits aux couleurs changeantes diffusant une jolie clarté sur la végétation. Autour du barnapé, les sages-fées et les protégés s'étaient réunis pour une dernière collation. Certains s'étaient installés à la table mille pieds devant une soupe fumante, d'autres décrochaient les fleurs de hautes plantes pour boire le nectar contenu au fond des calices. À chaque fois que la petite fille posait ses yeux sur quelque chose, Pepper se faisait un devoir de mettre un nom dessus. La plante à nectar, c'était le vertige. Si on buvait deux fleurs d'affilée, on avait le tournis. Les palmiers aux troncs bien verts, avec leurs grosses feuilles de salade et leurs énormes fleurs blanchâtres, c'était des palmiers primevères, ou palmiers dansants. Les petites fleurs dorées sur le bord des chemins, des astérules parfumées. Elles pouvaient les manger. Toute la plante était comestible. Les fleurs avaient même un délicieux goût beurré et vanillé. La sage-fée n'était pas douée pour se souvenir des consignes. Mais s'agissant des plantes de la serre, elle était incollable. D'ailleurs, pour la semer, Hélène avait trouvé la solution. Elle regardait fixement un buisson et Pepper se mettait à le décrire en long, en large et en travers. Sans rien dire, la fillette reprenait alors sa marche à la recherche d'une cafetière en laissant la sage-fée derrière elle, en pleine discussion avec l'arbuste. Il devenait urgent qu'elle trouve du café ou n'importe quelle boisson énergisante. Elle ne tenait plus debout. Elle était dans un état critique qu'elle n'avait plus connu depuis des années. À croire que toutes ces nuits d'entraînement ne lui avaient servi à rien. Elle se sentait fatiguée, comme si elle avait encore 5 ans. C'était à ne rien y comprendre. Quand le moment arriva de regagner les chambres en sous-sol, la fillette tenta de se glisser entre les protégés pour rester aérée dans les jardins toute la nuit. Mais Pepper, qui n'avait rempli son rôle que partiellement toute la journée, se sentit pousser des ailes et rattrapa sa petite Miss Orban avant qu'elle ne tombe la tête la première dans un parterre de géranium catapulte, direction l'Arakli. Tandis qu'elle marchait vers sa chambre, les yeux rougis de fatigue et le pas lent, la petite fille organisait son évasion dans sa tête. Elle attendrait que tout le monde soit couché et elle sortirait discrètement de sa chambre, regagnerait les jardins et tenterait l'escalade jusqu'au sommet de la tour. Elle ne savait pas encore comment elle allait faire, mais elle y songeait sérieusement. Il y avait forcément un moyen de monter. Il fallait juste qu'elle résiste à cette fichue fatigue qu'elle traînait comme un boulet à la cheville. Elle ne se rendit pas compte immédiatement en retrouvant sa chambre, mais on l'attendait à l'intérieur. Elle vint s'asseoir sur le lit araigné et fut surprise de découvrir son visiteur monté sur la commode qui la regardait fixement. Un chat noir, borgne, aux poils courts, irisés de reflets émeraudes. Un œil totalement gris et mort côté gauche, un œil bien vivant et d'un vert pénétrant à droite. Il était immobile, assis sur son postérieur, droit comme une statuette égyptienne. Il ne la quittait pas de son œil unique. Elle non plus ne le quittait pas du regard. Elle monta sur son arakli, nettoya le drap sur lequel traînait une graine qu'elle jeta par terre et s'assit en tailleur. Si le défi était de rester sans parler, sans bouger, sans dormir et sans se lâcher du regard, l'animal n'avait aucune chance de gagner. Car la fillette n'était pas seulement la reine de la nuit et la championne incontestée au jeu du silence, c'était aussi une véritable tête de mule doublée d'un caractère de cochon. Si on essayait de lui tenir tête, elle se montrait plus têtue encore. Ça faisait des années que plus personne n'avait réussi à lui décrocher un mot. Ni les pédopsychiatres et leurs ateliers création auxquels elle refusait obstinément de participer, ni les professeurs des écoles et leurs chaises qui fait grandir sur laquelle elle avait dû rester assise des journées entières. Pas même les hurlements de la directrice de l'orphelinat. Non, rien n'avait eu raison de sa volonté de faire. Au début, l'animal garda si bien la pose qu'elle se mit à douter. Était-il vivant? Ou bien était-ce vraiment une statuette? Une statuette très réaliste, mais inanimée. Elle était prête à se lever pour vérifier quand le chat oscilla sur le côté, puis se ressaisit. L'instant suivant, la fillette montra elle aussi un léger signe de faiblesse, mais se redressa aussitôt. Nouvelle vacillation du félin, nouveau tangage de la fillette. Ils faisaient preuve, l'un comme l'autre, d'un acharnement remarquable, mais cet endroit, cette chambre, ce lit avait un pouvoir qui surpassait de loin la volonté d'une fillette de 11 ans, aussi tenace soit-elle. Impossible de résister plus longtemps. La petite fille eut un dernier soubresaut avant de s'effondrer tout d'un coup sur le velours soyeux, parfaitement endormie. Pour tout dire, elle tomba si vite dans le sommeil qu'elle n'eut pas le bonheur d'assister, une seconde plus tard, à la chute lamentable du félin qui dégringola de la commode.
Thank you. Feeling.